Alors, le sommet, le G20 de Buenos Aires.
Écoute, c'est pas édifiant, ce sommet-là. Tu regardes ça et tu te dis, mais à quoi en est-on rendu? Parce que là, tout ce qu'on voit, c'est la liste des problèmes qui vont être abordés dans ce G20. Là, on sait que Trump va rencontrer le premier ministre de la Chine, Xi Jinping, et là, ils vont essayer de régler un conflit commercial qu'ils ne régleront pas, évidemment. Là, l'ALENA a été signé. On est chanceux jusqu'à un certain point, mais les tarifs imposés sur l'aluminium et l'acier existe toujours. Autrement dit, on a signé, mais le dos courbé puis la tête penchée. Là, Mohamed Ben Salman va être là après être responsable, semble-t-il, assez officiellement de l'assassinat. Et là, tous les pays qui sont autour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lui dire bonjour, ils lui diront pas bonjour. Le Canada va dire, oh, maintenant, vos représentants pourront plus, on garantira pas leurs investissements. Tu sais, et là, tu peux ajouter, là, j'en ajoute, là, la Russie, l'Ukraine. Moi, je me dis, mais à quoi ça sert, cette rencontre-là? À l'origine, et j'ai lu ça, c'était... Et c'est même notre premier ministre qui avait comme créé le G20, semble-t-il, monsieur...
Après, dans la foulée de la crise de
2008. La crise économique. Ouais. Ça avait été comme une cellule de crise économique pour éviter qu'on retombe dans ce qui s'est passé à l'époque, dans les années 30, la Grande Dépression. Mais visiblement, c'est devenu maintenant un lieu de rencontre des chefs d'État. Mais moi, je me dis sérieusement, mais qu'est-ce qui peut sortir de bien de cette rencontre-là? Et je vois rien.
Ben, il y a cette guerre. En fait, ce qui inquiète le plus les experts, c'est la guerre larvée, guerre commerciale entre les Américains et la Chine. Ça fait longtemps que les États-Unis et d'autres pays occidentaux, M. Harper en parlait récemment, là, il fait une tournée médiatique, l'ancien premier ministre, d'une sorte de débalancement qu'a occasionné l'arrivée de la Chine sur la scène internationale en commerce. Il y a des déficits commerciaux, il y a des pratiques commerciales qui sont discutables, semble-t-il. Et les griefs que M. Trump a sont, semble-t-il, légitimes. Mais Trump est un personnage tellement hors norme, tellement quérulent, tellement enclin à la chicane que c'est facile de se dire, ben, prends une autre chicane. Mais là-dessus, il semble qu'il y a quelque chose de fondamental, quelque chose de légitime qui était une préoccupation des anciennes administrations. Est-ce qu'ils vont arriver à avoir une entente? Je sais pas. La question pour les Américains, c'est un citoyen américain personnellement, c'est est-ce que le président des États-Unis a la quiétude pour faire des négociations cruciales avec la Chine? Parce que hier, dans les 48 dernières heures aux États-Unis, M. Trump a été sérieusement inquiété. Il est tombé, semble-t-il. Il y a des gens qui spéculent sur le fait qu'il est peut-être tombé dans ce qu'on appelle une perjury trap. C'est un piège au parjure. M'explique. Michael Cohen, son ancien avocat, est allé s'incriminer devant les tribunaux quelques heures après que le président eut envoyé ses réponses écrites au procureur spécial M. Mueller. Et ce qu'on pense, c'est que quand Mueller a vu les réponses, ben c'est là qu'il a fait le deal avec Cohen. Parce que probablement que ce que Cohen, l'ancien avocat de Trump, est allé dire en cour contredit ce que M. Trump a affirmé sous serment. Donc là, tu t'en vas là-bas, tu t'en vas à Buenos Aires pour faire des négociations de toutes sortes, mais tu sais que tu viens peut-être te faire rouler dans la farine par ton ancien avocat. As-tu inquiétude pour faire des deals avec la Chine? Moi, comme Américain, j'aurais de sérieuses préoccupations là-dessus.
Mais tu dis la quiétude, c'est ça le problème de ce G20-là, c'est que là, tu as l'impression qu'il va y avoir plein de rencontres bilatérales entre le président... Bon, la rencontre entre Trump et Poutine a été annulée, mais elle devait avoir lieu.
Vladimir a dit qu'il va pouvoir quand même avoir plus de temps pour jaser avec des personnes intéressantes.
Exact.
Son porte-parole a dit ça hier.
Ouais, c'est quand même
ça
bien.
Va bien.
Donc, ils vont avoir des rencontres, ils vont se rencontrer entre eux. Mais il n'y a plus... Et ce que ça montre, c'est que les anciens organismes, les organismes internationaux où ces choses-là étaient entourées d'un certain nombre de procédures. Je pense à l'OTAN, tout ça. Il y avait une tribune où chacun peut s'exprimer, mais il y a beaucoup de gens qui sont là puis qui font des tractations, qui discutent. Puis il y a un mécanisme qui existe, un mécanisme de votation. Tous les pays sont là au même titre. Tous les intérêts peuvent s'exprimer.
Et rappelons-nous le sommet de Charlevoix, là, juste pour se rappeler comment ça a fini. Là.
Ça va finir la même affaire. Ils ne sont pas capables de rédiger le communiqué final. On sait très bien
Sagré son camp.
Oui.
Puis il va tweeter dans l'avion en disant que ce sont tous des tatas.
Là où ça aurait pu être utile, ça aurait été effectivement au niveau climatique, parce que si tu peux te chicaner sur à peu près tout, peut-être que tu pourrais t'entendre là-dessus, mais visiblement, ça n'arrivera pas. Fait que moi, je pense que c'est une rencontre inutile, puis on va arrêter d'en parler. Ben, pas.
Ce qui me fascine, c'est que le prince héritier Salman est là-bas. Le genre de gars-là, tu lui donnes la main, puis tu regardes tes doigts, ils sont tous encore là.
Mais quelqu'un me faisait remarquer hier, et avec raison, que dans le cas des Russes et dans le cas de l'Arabie saoudite, Trump leur donne raison sans rien exiger en retour. Il dit normalement, un président américain aurait dit au roi d'Arabie saoudite, qui demeure le souverain, écoute-là, on va maintenir nos liens d'affaires, on va continuer à te vendre des armes, mais ton prince héritier, là, on ne veut pas le voir dans les activités internationales, tu vas le mettre de côté. C'est un deal. Et tu sais, on pense que Trump n'a même pas eu cette capacité de négocier ça, de le proposer puis de mettre le point sur la table.
Mais c'est pas un grand négociateur.
C'est le meilleur au monde. C'est lui qui l'a dit d'ailleurs.
Ben, quand tu regardes son passé commercial, c'est pas un grand négociateur. C'est un grand talent d'autopromotion. C'est un grand talent de mise en marché. Quand on voit le nouvel accord États-Unis, Canada, Mexique, ben qu'est-ce qu'on voit? Les experts vont te dire, ça ressemble pas mal à l'ancien deal. Oui, il y a eu quelques ajustements à gauche, à droite, la gestion de l'offre, etc. Puis encore là, c'est assez modeste. Et encore là, sur la gestion de l'offre, les Américains ont eu ce qu'ils auraient eu s'ils avaient été dans l'accord transpacifique. Mais là, Trump, aujourd'hui, disait « ça va changer le paysage pour toujours ». Mais si t'es un Américain moyen qui n'est pas versé dans les affaires financières, qui mange ses céréales en regardant CNN ou Fox, peut-être que tu penses que ça va tout changer. C'est pas un grand négociateur, comme tu dis. Il n'est pas allé chercher des contreparties. Il n'a pas su profiter de la crise en Arabie Saoudite, par exemple. Mais regarde, quand tu portes quelqu'un au pouvoir comme ça, il faut que tu vives avec les conséquences.
Merci. Bon week-end, messieurs les commissaires. 8h51, la 13.